France Inter. .fr.
C'est un nouveau jour dans une ère nouvelle pour nous.
On demande un changement radical et on vise loin.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Caroline Fourest, il change le monde.
Bonjour à tous. Notre utopiste du jour s'appelle Pierre Larouturou. Ce n'est pas un économiste très orthodoxe. D'ailleurs, il est ingénieur agronome de formation et humaniste de conviction. Ce qui n'empêche pas de regarder le monde à travers les chiffres, ceux des inégalités salariales qui l'affolent, ceux du temps de travail qu'il continue de vouloir baisser pour mieux partager l'emploi. Les indicateurs de l'Allemagne, ceux de la Chine, rien ne lui indique que tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Et même si on ne l'écoute pas toujours, on est un peu obligé de l'entendre, car en 2008, Pierre Larouturou était l'un des rares économistes à avoir prédit la crise. À l'époque, il criait un peu dans le désert, notamment dans le désert politique, puisqu'il a successivement milité au sein du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, avant de perdre certaines illusions et de reprendre sa liberté, d'écrire, de penser et d'alerter, à travers des livres comme « Pour éviter le krach ultime » ou des manifestes exigeant un plan à la Franklin Roosevelt. Nous l'avons rencontré dans son petit bureau parisien, dans le 11e arrondissement de Paris. Une pièce plus sobrement meublée qu'une cellule de moine, une table, un ordinateur et des piles de livres. Car Pierre Larouturou n'est pas homme à s'attacher aux choses, mais il a plein d'idées.
Tu crois qu'on peut trouver des idées que personne n'a jamais eues? Bah dis donc, hein, c'est vrai, c'est excitant.
Pierre Larouturou, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie des gens qui, comme économiste, avaient annoncer la crise qui nous frappe tous depuis 2008. Vous êtes pourtant ingénieur agronome de formation. Comment en êtes-vous venu à travailler sur ces sujets?
Mais je pense d'abord qu'à l'agro, on apprend à décortiquer les problèmes, qu'on a tous un petit complexe parce qu'on n'a pas fait polytechnique, donc on ne se prend pas trop au sérieux, et qu'on apprend à décortiquer les problèmes. Après ça, j'étais l'élève de René Dumont, donc qui était le premier candidat écologiste aux élections, et qui était le grand professeur d'agronomie à l'agro. Et donc moi, j'allais chez lui, il me racontait tout ce qu'il avait fait en Afrique, au Burkina Faso, en Inde, en Asie, au Brésil. Donc il m'a ouvert les yeux sur le reste du monde. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que quand même, on avait de la chance de vivre dans un pays vraiment très riche, et qu'en même temps, on parlait beaucoup des questions nord-sud ou du partage, mais que tant que nos pays riches continuaient à s'enfoncer dans la crise, on ne ferait jamais vraiment rien de nouveau en matière de nord-sud. Et donc, c'est, paradoxalement, c'est en écoutant René Dumont sur toutes les questions des pays du sud que je me suis dit qu'une des priorités, c'était d'arriver à vaincre la crise sociale dans les pays du nord. Et c'est pour ça qu'après l'agro, j'ai fait Sciences Po et j'ai fait mon service militaire à Matignon, en me disant, pourtant, dans des pays aussi riches, ça ne devrait pas être compliqué de donner à chacun un vrai boulot et un vrai revenu. Et je pensais qu'en quelques années, on pourrait régler les problèmes et que du coup, après ça, on pourrait vraiment poser la question nord-sud.
Est-ce que je me trompe si je pense que votre sensibilité au rapport nord-sud, aux questions de pauvreté et aux injustices entre pays riches et pays plus pauvres vient peut-être aussi de votre parcours familial? Vous êtes né dans une famille nombreuse avec cinq frères et sœurs.
Voilà, cinq frères, pas beaucoup de sœurs. J'ai des belles sœurs maintenant, mais on était une famille de garçonnasses, comme disaient mes parents, plutôt de cathos de gauche. Mes parents militaient avec Jacques Delors. Voilà, je suis plutôt d'une famille deuxième gauche, où effectivement, déjà, je racontais ça à mes enfants l'autre jour, quand chez nous, il n'y avait aucun fruit qui venait d'Afrique du Sud. Ça nous paraissait une évidence qu'il fallait lutter contre l'apartheid et que donc, déjà tout petit, on allait distribuer des tracts pour expliquer qu'on ne mangeait pas d'orange ou de pamplemousse ou de span, voilà. Et que donc, ça paraissait normal d'être solidaire des gens qui se battaient contre l'apartheid en Afrique du Sud.
Cette sensibilité qu'on sent chez vous, qui est vraiment pas surfaite, aux inégalités, à l'injustice, vous pensez que ça vient de cette culture politique, familiale, du catholicisme social ?
Je ne sais pas, parce qu'il y a plein de gens qui, encore j'ai passé la journée avec des copains qui n'ont pas eu la même éducation et qui ont exactement les mêmes objectifs, donc je ne sais pas. Vous voyez, c'est Anna Arendt qui a expliqué qu'un homme ou une femme ne peut pas se réduire à une seule étiquette. Quelqu'un qu'on veut réduire à une seule étiquette, il est mort ou elle est morte, ce n'est pas à peine de lui donner la parole, on sait déjà ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et je pense que je suis tissé des rencontres que j'ai fait quand j'étais petit, des rencontres que j'ai fait quand j'étais adolescent, de ce que m'ont transmis mes parents. Il y a des trucs que j'ai gardés, il y a des trucs que j'ai rejetés, il y a des trucs qui viennent de... Voilà, donc je ne sais pas trop. Je suis d'un naturel plutôt fougueux. Je pensais, comme plein de jeunes agronomes, je pensais partir un an ou deux ans en Afrique. Et en fait, j'avais découvert qu'on pouvait faire le service militaire à Matignon, et je m'étais dit que comprendre les arcanes du pouvoir, comprendre comment marchait la politique, c'était important. Et du coup, au lieu de partir au Burkina Faso, j'ai fait mon service militaire à Matignon. J'ai fait Chirac, Pirocard, et donc j'ai vraiment compris comment marchait le cœur du pouvoir. Et quand je suis rentré chez Arthur Andersen, je gagnais très 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 bien ma vie, et je me suis dit que ça servait pas à grand chose, et c'est à ce moment-là que j'ai pris une année sabbatique pour travailler sur les questions de chômage et d'exclusion. Et c'est à ce moment-là que des copains m'ont dit, écoute, t'as du temps libre, t'as des idées, il faut que tu mettes tes idées par écrit. On est tous bac plus 8, on a de la chance, on ne peut pas se contenter de critiquer les politiques. On a un cerveau, on peut travailler ensemble, on doit faire des propositions. Donc j'ai fait un texte que j'ai fait lire à plein de gens, et je pensais qu'après ça, je retournerais à des occupations normales, à une vie normale, et je ne pensais pas que je m'embarquais. Ça fait 19 ans maintenant, je pensais que c'était une telle évidence, tous les gens qui lisaient notre argumentaire sur... on avait fait 12 propositions contre le chômage, et tous les gens qui les lisaient disaient oui, aussi bien des gens de la CGT que des patrons disaient oui, on est d'accord. Donc moi, je pensais qu'en quelques mois, ça allait être adopté. Et 19 ans plus tard, je trouve qu'on n'a fait aucun progrès dans le débat public. Il y a un côté assez désespérant, que les idées qu'on a mises en avant en septembre 93, par exemple sur le temps de travail, bon, on n'a fait aucun progrès. 19 ans plus tard, on n'a fait aucun progrès.
C'est chez Andersen Consulting que vous comprenez l'importance du partage du temps de travail, de la réduction du temps de travail ?
Oui, la cause fondamentale, déjà, je crois que vous avez lu mon dernier livre, il y a une très belle citation d'Albert Einstein qui, en 1933, expliquait que la cause fondamentale de la crise de 1929, ce sont les gains de productivité. C'est Ford et Taylor, vous savez, Charlot, les temps modernes, et Einstein dit que la crise de 1929 vient du fait que, grâce aux nouvelles méthodes de travail, on a besoin de moins de travail humain pour produire plus. Et c'était vrai. Et c'est pour ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans tous nos pays, on a baissé le temps de travail d'une façon ou d'une autre. Or, depuis 40 ans, grâce aux robots, grâce aux ordinateurs, grâce à l'intelligence qu'il y a dans la tête des gens, on a fait des gains de productivité. C'est difficile à la radio de montrer une courbe, mais les gains de productivité qu'on a fait depuis 40 ans sont, disons, 50 fois plus importants que les gains de productivité dont Albert Einstein parlait. Donc oui, c'est comme consultant chez Arthur Andersen, je me suis rendu compte que partout, dans tous les métiers, on fait des gains de productivité colossaux. Depuis 30 ans, depuis qu'on est en crise, le volume de biens et de services produits en France a plus que doublé. Donc on dit qu'on est dans une crise et ça se voit partout. Et par contre, on produit deux fois plus de richesses avec moins de travail humain, parce que les robots, les ordinateurs nous remplacent dans pas mal d'activités.
Et concrètement, en quoi consistait votre travail chez Andersen Consulting pour augmenter cette productivité qui fait baisser par opposition les emplois humains ?
Alors c'est très varié, ça peut être mettre en place des systèmes d'informatique, ça peut être mettre en place des machines à commande numérique. L'exemple qui m'a le plus frappé, c'est la SNECMA, où on fait des moteurs d'avion, une immense usine à quelques kilomètres de Paris, une usine d'un kilomètre de long. Et un vieil ouvrier me racontait que quand il était embauché, il travaillait le métal, il était fraiseur, donc il avait le contact avec le métal. Et puis il y avait quelques machines, et c'était l'ingénieur qui venait pour régler les machines. Ça, c'était quand il a commencé sa carrière. Et quand il me racontait ça, c'est un ouvrier de base, entre guillemets, qui était capable de commander deux ou trois machines à commande numérique. Et c'est la machine qui change d'outil, c'est la machine qui fait les contrôles qualité, c'est la machine qui charge l'outil suivant. Donc en 30 ans, on a fait des gains de productivité colossaux, parce qu'il y a plein d'avantages, mais qui est dramatique si on n'est pas capable de faire évoluer le contrat social. Je pense que l'histoire sera très 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 sévère avec les dirigeants de notre pays. On a divisé par deux le temps de travail entre 1900 et 1970. Toutes les forces de progrès, les syndicats, les partis de gauche, ont été capables. Ça a toujours été un combat. Hein. Le MEDEF ou le patronat n'a jamais voulu lâcher ça. Ça a toujours été un combat. Mais finalement, on a divisé par deux le temps de travail. On est passé de 7 jours à 6, de 6 jours à 5. On a des congés payés, on a raccourci la journée. Donc, alors qu'il n'y avait pas tellement de gains de productivité entre 1900 et 1970, on a divisé par deux le temps de travail d'un emploi normal. Et par contre, depuis 1970, alors qu'on a fait des gains de productivité de géants, le temps de travail pour un emploi normal n'a quasiment pas changé. Aujourd'hui, en 2012, avec en plus le travail de casse que la droite a fait, la durée pour un travail à temps plein est en gros à 39 heures. C'est presque la même chose qu'il y a 40 ans. Et du coup, la productivité, au lieu de profiter à tout le monde, ça débouche sur un partage sauvage. C'est la loi du marché qui s'applique. C'est soit tu as un boulot à plein temps, à 39 heures, soit tu as 0 heure par semaine, tu es au chômage, ou tu vasouilles avec des boulots à 8 heures ou à 10 heures par semaine. Donc, au lieu de faire évoluer le contrat social, c'est un impensé de notre débat. On n'est pas capable de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait du fruit de notre intelligence.
Si je comprends bien, alors qu'on nous explique depuis des années que le problème, au fond, en France économique, c'est la perte de compétitivité, notamment vis-à-vis de pays émergents, vous, vous nous dites, non, c'est le problème qu'on est peut-être devenu tellement productif qu'au fond, on a sacrifié plein d'emplois, notamment d'emplois manuels, d'emplois ouvriers, et du coup, on a une inflation de chômage parce que ces emplois, on ne peut pas les remplacer par des emplois de service, tous. Et c'est ce chômage, cette perte de pouvoir d'achat, qui est plutôt la source de nos problèmes.
Tout à fait, avec juste un petit ajout, c'est pour dire que les gains de productivité concernent en gros tous les métiers. Dans le cockpit d'un avion, il y avait 3 personnes ou 4 personnes. Maintenant, il n'y a plus que 2 personnes et des ordinateurs. Mais c'est vrai, l'autre jour, je voyais un déménagement dans le quartier où j'habite. Autrefois, les gens se cassaient le dos pour faire, quand il y avait un meuble à descendre depuis le 4e étage, il fallait un quart d'heure pour descendre. Et maintenant, vous avez des échelles automatiques. Donc, dans tous les métiers, comme journaliste, autrefois, pour faire cette émission, il y aurait eu 4 techniciens. Alors que là, on est un tout petit nombre. Non, mais c'est dans tous les métiers, autrefois, la presse écrite, il y avait un journaliste qui écrivait son papier, puis la secrétaire qui tapait, puis le gars qui faisait la composition. Puis on l'envoyait au marbre. Voilà, il y avait 5 salariés, j'imagine, entre celui qui rédigeait l'article et celui qui l'imprimait. Et maintenant, c'est le journaliste qui tape et ça va directement se mettre, le logiciel le met en place et ça va sur la rotative. Donc partout, on a fait des gains de productivité et tant mieux. Les boulots fatigants, répétitifs ou dangereux, on élimine le travail humain pour le remplacer par des machines. Donc il y a des endroits où on en fait trop. Quand à la poste, on vous oblige maintenant à aller devant une machine, c'est juste ridicule. Ou quand les gens du métro n'ont pas le droit de vous vendre un ticket, c'est la machine qui. Bon, donc il y a des endroits où ça va trop loin, mais globalement, c'est plutôt bien. C'est aussi Hannah Arendt qui expliquait que notre but dans la vie n'est pas de travailler, travailler, travailler. Hannah Arendt disait, à la fin du XXe siècle, on travaillera 30 heures par semaine, mais le risque, c'est que les hommes et les femmes se libèrent des chaînes du travail, mais ne sachent plus quoi faire de cette liberté. Donc c'est pour ça que la gauche a un rôle fondamental à jouer. Je pense qu'il n'y a pas une baguette magique, ce que j'essaye de montrer avec le collectif Roosevelt 2012, on dit qu'il y a 15 mesures à prendre très vite si on veut sortir de la crise. Il n'y a pas que le temps de travail, mais le temps de travail est un des leviers les plus puissants pour sortir de la crise. Et après ça, il y a quel accès à la culture? Comment vérifier que c'est une vraie liberté d'avoir du temps libre? Donc je pense qu'il faut en même temps avoir le courage de relancer le débat sur le temps de travail, en même temps que la gauche ait une vraie politique sur l'accès à la culture, le partage du plaisir, de la citoyenneté. C'est un vrai projet de société.
Pierre Laroutourou, il y a un épisode dans votre vie qui est peut-être lié à cette réflexion sur le partage du temps de travail. Vous êtes ingénieur chez Anderson Consulting et là vous décidez de prendre une année sabbatique. Pourquoi ?
Oui, parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens et j'ai proposé mes services à ATD Quart Monde parce que ATD Quart Monde demandait une loi contre l'exclusion et les députés disaient ok, mais donnez-nous un texte. Donc je travaillais bénévolement 2 jours par semaine avec ATD et puis d'autres associations pour ce qui est devenu plus tard la première loi contre l'exclusion. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir, que j'ai lu beaucoup de bouquins sur le chômage et la précarité. Comme je ne gagnais pas 1 euro par mois ou pas 1 franc, donc j'allais à la FNAC, je passais mon temps à lire d'un coin en ayant peur de me faire jeter. Mais bon. Et puis, des copains m'ont dit, écoute, tu as dû mettre tes idées par écrit. Et quand on met ses idées par écrit, ça oblige à les clarifier, à en parler avec d'autres personnes. Et j'ai eu la chance, de bouche à oreille, que plein de gens très différents m'aident, aussi bien des syndicalistes de la CGT que des patrons du CJD, un gars du cabinet de Jacques Delors, des gens très, très variés, et qui chacun me disait, ben non, là-dessus, je suis pas d'accord, là-dessus, je suis pas d'accord, ça va pas, voilà. Et c'est comme ça, finalement, qu'au bout de 6 mois de travail avec tous ces gens, on est arrivé en septembre 93 avec 12 propositions contre le chômage. Et c'est l'époque où Balladur venait d'arriver au pouvoir et tout le monde disait que le chômage était un problème dramatique parce que pour la première fois, ça touchait les jeunes diplômés, les enfants des députés étaient touchés eux aussi par le chômage. Et donc, on a eu une fenêtre. C'est triste, mais c'est parce que le chômage touchait les jeunes diplômés qu'on a réussi à convaincre, par exemple, Gilles de Robien. C'est lui que j'ai convaincu le premier qu'il fallait expérimenter sur le temps de travail. Et je suis allé le voir parce qu'il était farouchement hostile à la baisse du temps de travail. C'est quelqu'un qui avait gagné la mairie d'Amiens, qui était une mairie communiste, qui était à 35 heures. Il avait fait repasser tous les salariés de la mairie à 40 heures. Il avait eu 6 semaines de grève. Il avait envoyé les CRS contre les salariés de la mairie pour les faire bosser plus. Donc je me suis dit, si lui, j'arrive à le faire bouger, ça va faire du bruit à droite. Puisque notre stratégie, c'était de casser des tabous et expérimenter une réduction forte du temps de travail sans baisser les salaires. En activant l'idée de la CFDT, les dépenses de chômage, pour que si une entreprise baisse le temps de travail, passe à 4 jours, et si elle crée au moins 10% d'emplois, elle arrête de payer l'équivalent des cotisations au chômage. Donc voilà comment, à la fin de mon année sabbatique, je n'avais plus un sou, j'étais interdit de chéquier, je mangeais à la banque alimentaire, donc il était temps que je reprenne un boulot, je suis revenu chez Arthur Andersen, et ça a été mon premier livre, et puis tout d'un coup, Le Monde m'a donné toute une page, alors que j'étais un blanc-bec de 28 ans. Et du coup, il y a des députés qui ont fait du bruit. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à relancer le débat sur le temps de travail. avec l'aide aussi d'Antoine Riboud, le grand patron de BSN Danone, qui disait qu'il faut passer à 32 heures sans étape intermédiaire. Dans les 24 heures qui suivaient, tous les patrons du CAC 40 ont dit « si tu bouges, on te tue ». Mais Antoine Riboud, qui est en même temps un vrai patron d'industrie et un homme qui avait une vraie fibre sociale, disait « oui, vu les gains de productivité, il faut réduire le temps de travail et il faut y aller fortement si on veut que ça crée des emplois ». Il disait « il faut aller à 32 heures sans étape intermédiaire, ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois ». C'était en septembre 1993 et 19 ans plus tard, la durée réelle est toujours de l'ordre de 39 heures et il y a 5 millions d'inscrits à Pôle emploi.
Les gens qui n'ont rien à faire, les enfants pas bavards, les chômeurs, les patrons, les gens bien, les gens bons, les savants, les sondeurs, les gens sans opinion.
Nous sommes avec Pierre Larouturou et on discute partage du temps de travail et crise économique.
France 3, le 14 octobre 1997.
Le débat sur les 35 heures s'est déplacé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'occasion pour le Premier ministre de dire qu'il ne reviendrait pas sur son engagement électoral. Sur place, Michel Lemerle, Jean-Jacques Butty à l'Assemblée nationale.
S'il vous plaît, un peu de silence.
La France s'il vous plaît. Détient à la fois le temps de travail le plus bas et le nombre de chômeurs le plus haut de la plupart des grands pays industrialisés. Votre politique va conduire à une hémorragie d'emplois vers nos compétiteurs européens, monsieur le Premier ministre.
Nous sommes sur les 35 heures à contre-courant du monde, regrettait l'opposition.
Nous ne sommes pas à contre-courant du monde, nous sommes à contre-courant de l'ultralibéralisme.
Et le gouvernement se propose même sur cette réforme de jouer un rôle moteur en Europe. Et puis, plaide Lionel Jospin, c'était nos engagements et le gouvernement entend bien les respecter.
Il vous est arrivé de mener campagne sur un slogan qui avait intéressé le peuple et qui était la lutte contre la fracture sociale. Vous avez abandonné ce slogan, vous avez été sanctionné pour cela. Si je dois un jour être sanctionné par le peuple, je préfère que ce soit sur ma politique que sur l'abandon de ma politique.
Pierre Larouturou, vous défendez très très bien le partage du temps de travail, cette idée de progrès, du fait qu'on n'est pas tous voués à travailler et qu'en plus ce partage ferait baisser le chômage. Et pourtant, comment vous expliquez que la seule idée des 35 heures soit aussi mal vue aujourd'hui, que ce soit quelque chose qui soit même plus envisagé comme un progrès, mais comme un échec?
D'abord, on voit que le débat est en train de repartir dans plusieurs pays. Là, depuis quelques semaines, quelques mois, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, où au niveau l'ensemble des syndicats européens disent qu'il faut relancer le débat sur le temps de travail et relancer une négociation. Plus personne ne croit un retour très fort de la croissance et qu'on peut agir sur plusieurs leviers. On peut avoir en même temps une vraie politique du logement, une vraie politique de développement des PME, une vraie politique d'économie d'énergie, mais que la question du temps de travail est quand même fondamentale. Donc je me sens moins seul qu'il y a 2 ou 3 ans. Après ça, les 35 heures, je pense que la droite a beaucoup exagéré en nous le présentant comme la catastrophe des catastrophes. Ça a quand même créé presque 300 000 emplois. J'aimerais savoir quelle est la mesure de droite depuis 20 ans en France qui a créé 300 000 emplois en CDI. Voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, puisque un ami qui était au cabinet de Martine Aubry m'avait montré une étude en 97 où la direction des études du ministère du Travail avait regardé toutes les entreprises qui étaient passées à la semaine de 4 jours. On avait 400 entreprises qui étaient passées à 4 jours. Et la direction des études estimait qu'un mouvement général vers la semaine de 4 jours créerait 1 600 000 emplois. Et il y a eu 2 lois sur les 35 heures. La première loi sur les 35 heures était équilibrée et permettait de créer des emplois et n'a pas augmenté le stress des salariés. Par contre, dans la deuxième loi sur les 35 heures, celle qui a concerné la plupart des salariés, il y avait beaucoup d'ambiguïté. On avait droit à des exonérations, même si en fait on restait à 37 heures de durée réelle, même si on ne créait aucun emploi. Un des points fondamentaux, c'est à l'époque, on avait fait déjà toute une page en Libération avec Stéphane Hessel, avec 50 syndicalistes, avec Marie-Claire Mendès-France, la veuve de Mendès. Le titre, c'était 35 heures, oui, mais avec des emplois. On disait qu'il était scandaleux de mettre 70 milliards chaque année sur la table. À l'époque, c'était des francs. S'il n'y a aucune contrepartie en emploi.
Donc, à votre avis, une partie de l'échec de ces 35 heures tient quoi? Aux demandes de concessions des entreprises, du MEDEF, auprès de Martine Aubry, par exemple?
Je pense que c'est François Hollande expliqué dans Libération il y a 5 ans que Jospin n'avait jamais cru à la RTT, mais que lui-même, Lionel Jospin, était convaincu que la croissance allait revenir et allait régler tous les problèmes. Après ça, je pense que la bonne méthode, c'est ce qu'avait employé Jacques Delors, ça ne nous rajeunit pas, mais dans les années 70, sur la formation professionnelle. Jacques Delors avait accepté de bosser pour Chaban-Delmas. Et il avait commencé par dire, on va trouver dans chaque région quelques entreprises qui ont innové et qui ont fait de la formation payée par l'entreprise sur le temps de travail. On donne la parole à ceux-là, à ces pionniers. Du coup, ça décoince le patronat national. Du coup, on arrive à un accord interprofessionnel au niveau national. Et 3 mois plus tard, on fait une loi. Et donc, la loi oblige pour de vrai toutes les entreprises à faire de la formation sur le temps de travail payé par l'entreprise. Tandis que sur le temps de travail, on a fait le contraire. La méthode était hard, on a tapé du poing sur la table, Jospin convoque les gens à Matignon et puis dit voilà, il y aura une loi au 1er janvier, la durée légale va baisser. Mais derrière, en fait, on peut rester à 38h40 de durée réelle. Ok, on a montré nos biceps, on a dit que la durée légale allait baisser à 35 heures, mais la durée réelle, ce qui concerne la vraie vie des gens, peut rester à 39 heures et on peut avoir des exonérations même si on ne crée aucun emploi. Donc je pense qu'il faudra qu'on rouvre ce débat, mais avec une méthode plus globale, comme ça a été fait aussi au Danemark ou aux Pays-Bas, on parle du temps de travail sur toute la vie.
Pierre Larouturou, cet échec à convaincre les politiques serait pu vous dégoûter. Pourtant, c'est à partir de là que vous commencez à essayer de vous engager en politique, vous adhérez au Parti Socialiste en 2002, mais vous allez avoir un parcours régulièrement déçu par la vie politique, puisque vous adhérez au Parti Socialiste, vous finissez par le quitter, vous adhérez à Europe Écologie Les Verts, vous êtes même devenu conseiller régional Île-de-France. Vous finissez par les quitter aussi. Alors, c'est une histoire d'amour définitivement contrariée, vous et la politique ?
Non. Et puis, je pense qu'on peut faire de la politique en dehors des partis. C'est-à-dire, le mur de Berlin, il est tombé parce que des gens comme Vaclav Havel et des citoyens se sont mis debout. Ce ne sont pas des partis politiques, même si les politiques ont une importance. Gorbatchev ou d'autres ont fait quelque chose. Donc oui, je suis rentré au PS après le 21 avril. J'avais eu ma carte pendant 3-4 ans. Et puis, j'avais arrêté. Et puis, après le 21 avril, François Hollande m'a dit que si on m'avait écouté, il n'y aurait pas eu le 21 avril et que donc, il fallait que je revienne au PS, que j'avais toute ma place à la commission économie. C'est le moment où on a lancé avec Stéphane Hessel et avec d'autres l'initiative sur un traité de l'Europe sociale. On a été reçu par Romano Prodi. Donc du coup, pendant 3 ans, j'ai été délégué chargé de l'Europe au PS. J'avais l'impression qu'à Solferino, il y en a beaucoup qui se foutaient aussi bien du chômage que de l'Europe. Donc j'ai quitté le PS après les européennes de 2009, en voyant que malgré la crise, c'est-à-dire qu'avant la crise de 2007-2008, on me prenait pour un charlot. Une fois, j'étais en débat avec Dominique Strauss-Kahn à La Rochelle, je tractais à La Rochelle, ils me trouvaient tous ridicules, j'étais le seul bac plus 8 à tracter avec des copains pour expliquer qu'on allait vers une crise majeure et que la gauche européenne devait prendre le problème à bras le corps. Et Vincent Peillon m'avait dit, ton texte est quand même intéressant, je te donne 2 minutes d'un débat avec Strauss-Kahn. Donc j'étais tout fier, j'avais 2 minutes d'un débat avec Strauss-Kahn. Donc je suis allé faire les courbes en grand. Vous voyez la courbe de la dette aux États-Unis qui monte de façon verticale. Et la deuxième courbe, c'était le taux d'épargne qui devenait négatif. Et j'expliquais qu'on allait vers une crise comparable à 1929 et que la gauche européenne devait faire un mini Bretton Woods avec quelques prix Nobel. Et Dominique Strauss-Kahn m'a dézingué en expliquant que j'étais vraiment le roi des nullos, que je ne comprenais rien à l'économie, que j'étais pessimiste. Voilà. Donc j'en ai eu marre de Solferino, j'avais quand même l'impression qu'on continue à ronronner. Ce que moi je trouvais catastrophique, vu la gravité de la crise, j'aurais préféré que les socialistes se donnent les moyens de foutre dehors Barroso et d'avoir un projet à la hauteur pour modifier les traités et sortir l'Europe de la crise.
Mais ça fait partie, ça, du jeu politique, et puis vous n'avez pas été visiblement plus conquis à Europe Écologie Les Verts ?
Non, j'ai cru il y a 2 ans, j'avais organisé un débat avec Joseph Stiglitz, avec Edgar Morin, avec Eva Joly, avec une économiste indienne. J'ai cru un moment qu'Europe Écologie allait apporter une réponse globale à la crise. Je pense qu'il manque quelque chose de nouveau à gauche, qu'on est des millions à penser que ce que dit Edgar Morin est juste, c'est qu'il faut une métamorphose de la société, il faut arrêter les rustines, on peut aller vers un effondrement. Si on n'est pas capable de penser à un changement, qu'il y a une crise culturelle, une crise globale. Et ce qui est terrifiant, c'est la différence entre tous les gens qui vous pouvez donner la parole dans votre émission, tous les livres qui sortent, toutes les semaines. La gauche est très féconde, en fait. Quand on voit aussi bien les élus locaux qui font bouger des choses, que des associations, que des livres qui sortent, des universitaires qui inventent, il y a plein d'idées pour répondre à la crise. Et quand on voit la médiocrité des programmes, là, on a été nombreux, lors de la dernière présidentielle, il y a quelques semaines, à trouver quand même que le débat n'était pas à la hauteur. Donc c'est ça qui m'a énervé. J'ai cru qu'Europe Écologie allait se donner les moyens d'être à la hauteur. Et puis, pour différentes raisons, je trouve que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un collectif Roosevelt 2012 en disant on peut aussi faire de la politique en dehors des partis.
Donc, vous nous rassurez, vous n'avez absolument pas renoncé à changer le monde. Comment vous allez continuer à le changer, alors ? Aujourd'hui, là où vous êtes, depuis les sociétés civiles ?
Eh bien, je pense, encore une fois, que quand Léon Blum est arrivé au pouvoir, il était complètement hostile aux congés payés et qu'il est resté dans l'histoire comme celui qui a mis en place les congés payés. Je pense que quand j'étais à Sciences Po, le plus grand spécialiste de l'Allemagne est venu au mois de mai 89 pour dire que de notre vivant, on ne verrait pas la chute du mur de Berlin. Il était absolument sûr de lui, le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. C'était au mois de mai 89, quelques semaines plus tard, le mur de Berlin est tombé. Donc il y a encore une fois, c'est pas des partis politiques qui ont fait tomber le mur de Berlin, c'est pas un accord entre diplomates, ce sont des citoyens. Je finis mon livre en citant Vaclav Havel qui dit que tous ceux qui n'avaient pas peur, tous ceux qui ne mentaient pas se sont mis debout. Et Vaclav Havel dit « Chacun de nous peut changer le monde. Même s'il n'a pas la moindre importance, chacun et chacune de nous peut changer le monde. Je crois que c'est le bon moment pour agir. On peut aller vers un effondrement. » Quand vous voyez l'évolution de l'économie en Chine, quand vous voyez comment Obama ne sait pas comment il finance l'économie américaine dans quelques mois, mais on peut aussi avoir un sursaut d'intelligence et de justice sociale. Et je crois qu'on est des millions à vouloir un sursaut d'intelligence et de justice sociale, et donc on peut le dire.
C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Merci Pierre Larouturou.
Merci.
Il change le monde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, Fiametta Vénère pour l'avoir concoctée, Marie Casanova pour l'avoir réalisée, à la technique Céline Bonhomme. Côté musique, vous avez pu écouter « Invité chez moi » de Carmen Maria Vega. Demain, notre invité sera Thomas Sterner, économiste suédois et à la pointe des taxes environnementales. En attendant, très bel après-midi sur France Inter.
Et merci à vous Caroline Fourest, nous vous retrouverons demain à partir de 13h30.